Bonjour chers auditeurs, auditrices et complices. Bienvenue dans In Keep It, l'émission littéraire, musicale et ludique qui donne envie de lire et d'écrire, mais aussi envie du contraire. Avec mes complices Prune Vélo, autrice, conteuse et journaliste, et Violaine Soulier, auteuse, autrice, auteure, compositrice et interprète, qui forme le duo si joli de Promenons-nous dans les voies, nous avons choisi ce titre d'In Keep It d'abord parce qu'il sonne, palpite, crépite, mais aussi pour son sens évocateur. En voici la définition que donne le Larousse. Larousse, nom masculin invariable, du latin incipit, incipere, il commence. Première définition, premier mot d'un manuscrit, d'un ouvrage. Deuxième définition, premier mot au pluriel, ou première note au pluriel d'un ouvrage vocal ou instrumental. Et ce sont aussi les premiers mots d'un document ecclésiastique, pourquoi pas, et d'une bulle. Ah, je préfère la bulle à l'ecclésiastique. Incipit, c'est donc un commencement, un début, une porte ouverte aux mots, aux idées, aux invités, dans tous les sens, dans tous les termes. Aussi, ce rendez-vous mensuel et dominical, plutôt brunchy, se déroulera de la façon suivante. En première partie, la lecture, mise en voix et en musique de deux extraits coup de cœur. Prune, nous offrant plutôt une nouveauté, et moi, piochon, dans mes poches. Incipit étant ludique, je viens de le dire, il y aura bien sûr un jeu d'écriture. Et un jeu, ah ben ça a ses règles et ses contraintes. À déjouer en direct avec vous tous, chers auditeurs, auditrices et complices. Le cœur de l'émission de Palpite qui Incipit ou d'Incipit qui Palpite sera dédié à l'interview dynamique et ludique d'une ou d'un libraire qui définira la thématique de chacune des émissions. Alors, la thématique, ce serait aujourd'hui la littérature au féminin, le féminin de la littérature féministe, un long débat. Nous avons aujourd'hui, en tous les cas, le plaisir d'accueillir Marine Pradel du café-librairie Luna à Grenoble pour en discuter. Bonjour Marine et merci de vous prêter au jeu. Nous terminerons par une courte page de poésie sonore, le tout accompagné par les notes et suggestions musicales de Violaine et les doigts et les oreilles, tout aussi lestes de Louis à la technique et de vous là-bas de l'autre côté. Incipit, ça commence. Oh, ça c'est une jolie petite virgule en direct, vous l'avez senti. Moi, elle me fait des petits rebonds dans les genoux, j'adore. Nous commençons par cette rubrique de mise en voix et en musique de deux extraits. Donc, comme je vous le disais à l'instant, Prune est venue avec un extrait qui lui est cher, qui est son coup de cœur de la rentrée.
Oui, c'est le mien. Bonjour tout le monde.
Voilà, bonjour Prune. Et qu'est-ce que c'est que ce titre que tu as apporté?
Alors, j'ai choisi... de coller à la rentrée littéraire. Donc, je suis venue avec « Au ventre des femmes » d'Uria, qui est édité par les Rues de l'Échiquier. J'ai beaucoup apprécié ce roman, parce que c'est un récit assez brut, écrit avec poésie, franchise, mais aussi sensualité, qui prend véritablement aux tripes. « Au ventre des femmes », ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Shahrazad, née dans un milieu où l'on considère que les femmes sont des êtres inachevés. Au travers de son regard, on découvre une société violente et hypocrite, régie par la religion et par les traditions. Uria évoque la soumission des femmes, leur souffrance, mais elle insuffle aussi un vent d'espoir au travers du personnage de Shahrazad, qui écoute son désir, se révolte contre le patriarcat et trouve le courage de se tracer une autre voie. Bref, ce livre, c'est un cri de liberté terriblement insolent et absolument nécessaire qu'il faut lire et partager à tout prix. Donc, j'ai choisi de vous lire un extrait tiré d'un dialogue entre Shahrazad et sa mère et un dialogue que toutes les filles devraient entendre.
On t'écoute. Et on écoute Violaine.
Tu as l'âge de comprendre. Ça fait longtemps que j'ai l'âge de comprendre. Alors, écoute-moi bien, car d'expérience, je sais de quoi je parle. Chez nous, On est habitué à parler à mots couverts et à dire les choses de biais. Quant à moi, je n'ai pas pu t'enseigner ce que l'on m'avait enseigné. Dans nos pays arabes, on peut tout raconter, sauf l'intimité féminine. Tu sais, il y a beaucoup de choses que l'on ne dit pas. Et le secret de tous les secrets, c'est la femme. On ne parle pas de ce qui se passe entre ses cuisses. Ma mère semblait désarmée. Elle a ajouté « Je vais te dire ce que j'ai sur le cœur. Je ne sais pas grand-chose de la sexualité. On ne m'a pas appris à en parler. Dans nos contrées, on n'apprend pas aux filles à devenir femmes. On préfère leur apprendre à accepter leur chaîne. De notre vivant, on transmet pour legs à nos filles une vie ocellée d'interdits. Et quand elles posent des questions embarrassantes, on leur enfonce dans la bouche le mot « achouma ». C'est honteux. Ma génération est étouffée par la sangle des traditions. Et à notre tour, nous transmettons à nos filles nos désastreuses paroles. Au lieu de leur apprendre l'usage de la vie, nous les culpabilisons et leur infligeons nos propres échecs. Nos mères sont fautives. Et nous sommes encore plus fautives d'accepter les chaînes de nos mères. Il est temps que notre pays, torturé par la frustration et par les non-dits, fasse grandir ses filles autrement. Et que toutes ces coutumes qui nous détruisent connaissent enfin la défaite. Ma mère m'a embrassée et d'une voix très douce, elle a dit « Voici la première chose que je voudrais te dire. Chez nous, tout est fait pour dégrader la femme. Alors si un jour tu as des filles, jure-moi de ne pas les élever comme on les élève ici. Ne les fais pas grandir dans la crainte de la souillure, du péché et de la honte. Ne leur mets pas ça en tête. Elles ne s'en relèveront jamais. Et voici la deuxième chose. Dès que tes filles seront en âge de comprendre, ne leur dis pas notre vérité cousue de grossières coutures. Ne les élève pas dans l'ignorance. Dis-leur la vraie vérité. Oublie la honte et dis-leur qu'elles ne sont pas des êtres inachevés. Jure-moi que tu n'emprunteras jamais le même chemin que les femmes d'ici. Je te le jure, mère. Alors cesse de pleurer, ma fille. Quand on est jeune, le chagrin ne dure que le temps d'un sanglot. Dans ma tête, j'ai serré dans les bras la petite fille que j'étais. Je l'ai consolée et je lui ai dit que rien n'était de sa faute. Et les caresses de ma mère m'ont arraché à mes larmes.
Merci, Prune. Merci beaucoup. Violaine, qu'est-ce que tu as choisi de jouer en direct pour nous et puis aussi de nous faire écouter pour accompagner ce bel extrait de « Au ventre des femmes ».
Alors, l'extrait choisi par Prune m'a donné l'envie de mêler un hymne occidental et un hymne oriental. Alors, le premier, cet hymne occidental que j'ai interprété en direct, eh bien, c'est un hymne qui a retenti pendant les années 70 dans les manifs et dans les amphis. C'est l'hymne du MLF. Et ensuite, j'ai voulu aussi le mêler à une chanson qui s'appelle « Barailler » pour montrer l'universalité des luttes des femmes. Et « Barailler », c'est une chanson qui a été écrite par Shervin Agipour, qui est un auteur, un chanteur iranien. Et cette chanson, elle est devenue l'hymne du mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Voilà.
Merci, quel bel choix. C'est un beau choix.
Ben oui, je trouve aussi.
Alors Christine, c'est à ton tour de nous présenter ton petit extrait. Je crois que tu es allée piocher dans les classiques.
Je suis allée piocher dans mes livres de poche. Je suis plutôt allée piocher au milieu des dunes de la Normandie. Qu'est-ce qu'il y a de plus sensuel que des dunes normandes ? La forme, les herbes sauvages, quelque chose de presque érotique. Et c'est ce qui m'a amenée à lire L'amant de Lady Chatterley. Je l'avais peut-être lu, mais il fallait que je le relise. Cet amant de Lady Chatterley a été écrit en 1928 par David Herbert Lawrence. Allez, c'est un vilain accent, mais je l'ai lu en français. Ce livre a créé vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de remue et de remous, puisqu'il a même été interdit et censuré jusque dans les années 60 en langue anglaise. Il a d'abord été publié en Italie, quelques temps après sa parution, à 1000 petits exemplaires, parce qu'on le trouvait obscène, et les écrits étaient même jugés obscènes. Alors que pour moi, c'est absolument un hymne poétique et politique, puisque c'est l'histoire... Une histoire d'amour, mais aussi l'histoire d'un pays qui se relève, l'Angleterre, difficilement de la Première Guerre mondiale. Une histoire d'amour entre cette Lady Chatterley, avec son époux qui est revenu tout cassé de la guerre. Mais un amour irrésistible, unstoppable, pour faire une petite allusion à ce que nous fera écouter Marine tout à l'heure. Un amour fou pour le garde-chasse. Ce qui s'avère donc être un amour interdit du point de vue aussi de l'aristocratie et des mœurs qu'il faut préserver. On ne se marie pas avec une autre classe sociale, mais surtout, en plus, on ne commet pas l'adultère avec un homme qui viendrait d'en bas ou d'une femme qui viendrait d'en bas. Voilà. Je vais commencer.
Braver l'interdit.
Je vais braver l'interdit et commencer cette lecture. Voilà ce que disait l'auteur, juste un an après avoir écrit son livre. Il savait que ça allait créer du remue-ménage. Gardez vos perversions, si cela peut vous faire plaisir, vos perversions de puritanisme ou de dévergondage à la mode, ou de simple grossièreté. Quant à moi, je défends mon livre et ma position. La vie n'est acceptable que si le corps et l'esprit vivent en bonne intelligence, s'il y a un naturel équilibre entre eux et s'ils éprouvent un respect naturel l'un pour l'autre. David Herbert Lawrence, Paris, 1929. Elle était comme une forêt, comme le sombre réseau des chênes murmurant silencieusement de leurs myriades de bourgeons verdissants. En même temps, les oiseaux du désir étaient endormis dans le vaste réseau de son corps. Elle ouvrit la porte et regarda la pluie, drue et lourde, semblable à un rideau d'acier, et elle eut soudain envie de se jeter dans la pluie, de sortir, de fuir. Elle se leva et se mit vivement à retirer ses bas, puis sa robe et ses dessous. Il retint son souffle. Ses seins effilés et aigus d'animal pointaient et bougeaient à chacun de ses mouvements. Elle avait une couleur d'ivoire dans la lumière un peu verte. Elle remit ses chaussures de caoutchouc et s'élança dehors avec un petit rire sauvage. Et les seins présentés à la lourde pluie, les bras écartés, elle se mit à courir de ci de là, indistincte dans la pluie, exécutant les mouvements de danse rythmique qu'elle avait appris il y avait si longtemps à Dresde. C'était une étrange silhouette, pâle, qui s'élevait et retombait, se penchant en sorte que la pluie venait frapper en reflets luisants les hanches pleines, se redressant et s'avançant, le ventre en avant, à travers la pluie, puis s'inclinant de nouveau, en sorte que seules ses fesses et ses reins, pleinement offert, se tendait vers lui en une sorte d'hommage, en un rite sauvage et d'obédience. C'est Violaine qui a choisi la musique qui accompagne cet extrait.
Bah oui, j'ai eu très très envie de vous partager un petit bout de la bande originale du film qu'a réalisé Pascal Ferrand dans les années 2010 et que je vous engage vivement à regarder. Parce qu'il a, je pense qu'il redonne toute la sensualité des mots que tu viens de prononcer. Et alors, cette bande originale, elle a été composée par une grande dame de la musique au cinéma, parce qu'elle s'appelle Béatrice Thiriet, et qu'elle enseigne à Paris la composition de musique de film, et qu'elle travaille avec beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices. Donc, c'est une dame importante.
Merci pour cette illustration. Merci beaucoup.
Alors Christine vous l'a promis en début d'émission, il est temps de jouer avec les mots. Nous vous proposons maintenant un petit jeu d'écriture. Prenez donc, amis auditeurs et auditrices, un papier, un crayon. Nous allons faire de même de notre côté.
Je déchire une page de mon cahier.
J'ai mon crayon.
Et nous allons vous proposer 5 mots. 5 mots extraits des textes que nous venons de vous lire. 5 mots qui parle du corps. Ces mots, les voici. Écoutez bien, notez bien. Il s'agit de ventre, cuisse, bouche, hanche et rein. Je répète, ventre, cuisse, bouche, hanche et rein. Maintenant, nous vous proposons 3 minutes de musique, 3 minutes avec Björk et l'ouverture de Dancer in the Dark, 3 minutes pour composer un petit texte avec au moins 3 de ces 5 mots. Et de notre côté, nous allons aussi jouer. Rendez-vous dans 3 minutes.
À tout à l'heure. Griffonne encore un peu de l'autre côté. Je ne sais pas comment nos auditeurs et auditrices ont achevé ou parachevé le petit texte qu'il fallait écrire.
Mais de notre côté... On espère que vous avez été inspirés, en tout cas.
Exactement. Et Louis, là, tu tentais ou pas? Non, pas cette fois-ci. Bon, ce sera la prochaine fois. La prochaine fois, tu auras des devoirs, hein, et des devoirs en classe. Mm.
Donc, je vais quand même vous poser la question. Christine, notre animatrice passionnée. Violaine, notre musicienne complice. Marine, notre libraire invitée. Avez-vous écrit quelque chose? Et voulez-vous lire ce petit quelque chose?
Qui Qui se jette?
Il y a de la timidité.
Qui se jette à l'eau?
Je veux bien me jeter.
Allez.
Je veux bien me jeter. C'est tout un truc hein, de lire comme ça devant vous. J'ai un peu peur. J'y vais.
Vas-y.
Danse de toutes tes hanches, aime de tous tes reins, embrasse à pleine bouche le tapis d'herbe naissant, l'humus sombre et riche, le bleu du ciel comme l'eau la plus délicieuse.
Merci.
Wow, merci. Merci Violaine, merci beaucoup.
Mais c'est vrai que cet extrait avait quelque chose de très... Il y avait de l'eau dedans, moi je trouvais, de l'orage, de quelque
chose. Les éléments.
Oui, les éléments.
De l'humus et du caoutchouc aussi. Hein.
Et du caoutchouc. Du caoutchouc, Christine. Alors,
oui,
je veux
non, je n'en ai pas mis de caoutchouc, mais j'ai adoré ce mot, j'aurais bien voulu qu'il y soit aussi.
Il va sortir un séjour, c'est sûr.
Marine, vous voulez bien nous lire ce que vous avez
tenté. Il n'y a rien d'obligatoire, mais ce serait un plaisir de vous entendre.
Je peux tenter. Je trouve ça terrifiant, mais je peux tenter. Le ventre marqué par les naissances des merveilles de ma vie, la bouche et la voix libérées des carcans de mon passé, les cuisses prêtes à me porter vers mon avenir, j'ai rêvé. Je me suis enfin autorisée à vivre.
Oh, mais quelle belle promesse. Il y a comme un écho au texte que nous lirons... en fin d'émission.
Que d'écho dans cette émission. Que d'inkipit prometteur.
Alors, c'est à moi, c'est
bah,
ça.
Si voilà. Tu en as envie, Christine.
Alors, moi, je me suis dit que j'avais envie d'utiliser ces mots dans des formules et des formulations qu'on entend beaucoup. J'ai essayé de faire quelques adages. Alors, ça fait cela. Même si j'en ai toujours l'eau à la bouche, peux-tu me dire pourquoi le vin a de la cuisse ? Dans un dernier coup de rein, je te mords et te souffle dans la hanche de ton corps. Saxophone ?
Il y a du jeu de mots, du jeu sur les syllabes, c'est très beau.
C'est Christine.
C'est c'est musical.
C'est nous toutes, et vous tous et toutes. Toutes qui écoutaient et qui écrivaient et qui lisaient.
Alors, en tout cas, ça serait un plaisir de pouvoir vous lire à l'antenne. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos textes, à les envoyer à l'adresse incipit@campusgrenoble.org et on les partagera dans la prochaine émission.
En musique.
On a hâte.
Alors, il est temps de passer à l'interview de notre invité. Bienvenue Marine encore, merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Donc, en juillet 2023, Marine, si je ne me trompe pas, vous avez ouvert le café-librairie Luna à Grenoble avec la complicité de votre amie Hélène.
C'est exact.
Donc Luna, c'est une librairie féministe, mais pas seulement, inclusive aussi.
Exact, on a même choisi les mots féminine et inclusive. Mmh.
Et donc, qui se situe à la hauteur du tram Alsace-Lorraine, donc à Grenoble, et qui propose une sélection pointue d'œuvres, mettant à l'honneur les femmes donc, mais pas que, et qui propose aussi des ateliers, des rencontres tout au long de l'année.
Tout à fait. Et un café.
Et un café, ne l'oublions pas.
Donc, et du maté, et du chai, et tout ça.
Donc, pour parler de cette belle aventure, mais également pour parler de votre passion pour les livres, on va vous proposer une petite interview un peu décalée. Dans l'enveloppe qui est là, et qu'on entend à l'antenne,
et qui fait son bruit,
se trouvent des mots que vous allez piocher. Et à partir de ce mot, vous allez vous laisser inspirer la réponse, et on vous guidera si besoin. 1, 2, 3, piocher.
Alors, ce premier mot, c'est couverture. Waouh.
Qu'est-ce que cela vous inspire qu'une couverture ?
Alors ça m'inspire Marine. Clairement nos livres que nous avons fait le choix de mettre en avant par leur couverture, puisque nous avons une librairie qui est classée non par ordre alphabétique mais par thème, avec l'intégralité de nos livres en facing, afin de donner à toutes et à tous plus de visibilité, et que chaque autrice ou auteur puisse être mis en avant à part égale.
Et du coup, Marine, vous pouvez nous parler un peu de ces grandes thématiques qui rayonnent dans la librairie ?
Alors, on est une librairie, comme je disais, féminine et inclusive. L'idée étant d'avoir des livres avec systématiquement des héroïnes de leur propre histoire, des femmes qui choisissent pleinement leur futur. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les héros, évidemment, mais il y aura systématiquement des héroïnes. Et pour pouvoir partager au plus grand nombre ces plaisirs de voir les femmes évoluer, on a fait le choix d'avoir tous les styles littéraires, ou en tout cas un maximum de styles littéraires, de l'essai jusqu'aux jeunesses, en passant par la bande dessinée, la fantaisie, les polars et tout type de littérature.
Et ce ne sont pas que des autrices qui parlent de ces héroïnes, de ces héroïnes. Je ne sais pas s'il faut faire une petite liaison.
Petite liaison, ouais.
C'est plus joli.
Effectivement, même si on va avoir une majorité d'autrices, parce qu'on a aussi la volonté de donner la voix aux femmes, on va également avoir des auteurs, parce que ils ont la possibilité et le droit d'avoir des héroïnes incroyables. Parce qu'aussi, certaines de nos thématiques, d'où le terme inclusive, viennent toucher des questions de genre, des questions de sexualité, des questions qui sont propres à tout le monde et qui, du coup, peuvent être portées par toutes les voix.
Très bien.
Voilà une réponse absolument complète sur juste un petit mot qui était couverture.
Piochons un deuxième petit mot.
Alors, fiction. Ça va me laisser dans les livres.
En même temps, on est là pour parler de livres, donc tout va bien.
Tout à fait.
Et peut-être que ces livres parlent aussi de réalité.
Tout à fait. On a les deux possibilités. Alors, j'avoue que personnellement, j'affectionne vraiment tout ce qui va être de la fiction, que ce soit dans des mondes réels ou que ce soit dans des mondes fantasy, fantastiques. Malgré tout, on a aussi des livres qui nous ancrent dans une réalité, notamment par le biais d'essais, parce que pour pouvoir porter les valeurs qu'on porte, il faut pouvoir les argumenter, pouvoir les partager. Mais la fiction permet la détente aussi, permet de se sortir de cette réalité qui est parfois lourde, surtout en ce moment. Et pourtant, par le livre de fiction, par le plaisir du livre, par le plaisir de partager, on arrive à véhiculer ses valeurs, on arrive à éveiller les sens et on arrive à ouvrir les œillères.
Et alors, quelle est la dernière fiction, justement, qui vous a particulièrement émue dans vos dernières lectures ?
Alors, si je reste sur la rentrée littéraire, je dirais que la dernière, c'est « Et la mère chantera ton nom », qui est une fiction, on va dire, afro-fantasy, afro-féministe, qui se passe au Sénégal et qui porte les valeurs de Luna, les valeurs des femmes, une femme forte qui va apprendre à se connaître dans la magie du Sénégal.
Eh bien, c'est bien, ça nous fait une idée de lecture supplémentaire. Allez, troisième petit mot.
Épilogue.
Épilogue.
Oh, je suis pas prête à écrire un épilogue. Waouh, je crois que j'ai besoin d'aide pour ce mot.
Eh bien... Alors, sans peut-être parler d'épilogue, mais voilà, c'est une aventure qui a commencé récemment. Comment vous vous projetez dans l'avenir et avec ce café librairie ?
Plus qu'un épilogue.
Peut-être une suite,
tout simplement.
Une histoire, déjà, parce que j'ai l'impression qu'on en est qu'aux prémices. Comment on se projette pour Luna ? On espère pouvoir accueillir beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus d'ateliers, pouvoir animer le lieu. Au cours de cette année, on s'est rendu compte qu'on avait créé un safe place encore plus que ce qu'on avait espéré de le faire. Et du coup, j'espère pouvoir le développer, le rendre de plus en plus sûr et de plus en plus accueillant dans l'agglomération.
Oh, c'est une belle suite, ça.
Allez, petit mot suivant.
Le quatrième.
Duo.
Qu'est-ce que cela vous inspire, qu'un duo ?
Alors, ça m'inspire la force, mais de manière incroyable. J'ai découvert, grâce à notre duo, grâce à notre association avec Hélène, la puissance du mot sororité. Elle est devenue mon miroir positif dans les moments où j'arrive mal le matin, dans les moments où c'est dur. Elle a été ma force pour porter Luna et je pense que j'ai été la sienne. Clairement, quand on dit qu'à deux, on va plus loin, c'est une réalité. Luna existe uniquement parce qu'on l'a portée ensemble.
Et alors, quelles sont vos complémentarités ?
Ah. Quelles sont nos complémentarités ? Hélène a l'art de rendre beau toutes les parties administratives et techniques que je vais analyser, ce qui a été... hyper important dans la création de notre projet. Elle a l'art de mettre en couleur, de mettre en avant et en mots toutes les choses techniques et barbantes que moi je vais aller chercher.
Mais c'est bien. Ça rend tout de suite l'administratif plus joyeux.
Exactement.
Et comment, et, inversement, duo,
pardon, ouais,
ouais. Et comment ce duo s'est créé, pardon, Prune ? Nous sommes trop curieux.
J'ai rencontré Hélène il y a une quinzaine d'années en chantant du gospel. On fait partie d'une chorale de gospel ensemble depuis 15 ans. On est du coup collègues de chant avant d'être amis. On a fait nos enfants en même temps. On a porté nos projets d'enfants puis de société chacune ensemble en parallèle, en habitant pas très loin l'une de l'autre, ce qui nous a beaucoup aidés. Et du coup, quand j'ai commencé à envisager d'ouvrir un café-librairie, c'est assez naturellement que je lui en ai parlé. Pas tant pour s'associer dans un premier temps, mais pour en parler. Et en fait, elle m'a fait parler beaucoup, beaucoup du projet, beaucoup des thématiques sur les femmes et tout. Elle m'a dit « Non, mais Marine, si t'y vas, moi j'y vais, en fait. » Et après, ça a été une évidence.
C'est bien ça. Moi, je voulais savoir inversement ce que vous... Parce que vous disiez que Marine, que Hélène vous apportait ce côté... mise en forme joyeuse, etc., et que vous apportiez finalement le côté technique, mais j'imagine que vous lui apportez aussi, que ça marche dans les deux sens. Alors c'est sûr que c'est elle qui répondrait le mieux, je pense, à cette question, mais...
D'abord, je suis assez persuadée que le côté technique est important dans un projet. Clairement, c'est moi qui fais la comptabilité et qui gère les salariés. Luna pourrait pas vivre sans cette partie-là. Je pense que j'ai certainement aussi apporté la graine de folie et mon incapacité à renoncer.
De la ténacité.
Là où, je pense que sans ça, elle aurait peut-être... Enfin, en tout cas, elle dit souvent que sans ça, elle aurait sûrement arrêté avant. Mais c'est difficile, en fait, parce qu'on se fait écho et du coup, je pense qu'on s'apporte l'une l'autre des choses parfois similaires sans s'en rendre compte, en fait.
C'est merveilleux. Cinquième petit mot ?
Suite.
L'épilogue ressemblait à une suite.
Exactement.
Alors peut-être qu'on pourrait revenir à l'origine. Vous n'étiez pas au tout début du début, vous n'étiez pas libraire. Ni c'est l'une vrai. Ni l'autre.
C'est vrai que Luna est déjà une suite en fait.
Exactement.
Effectivement, j'ai été architecte pendant 15 ans. Ça a été ma façon de respirer pendant 15 ans et j'aurais jamais cru changer ça un jour. Et Hélène est urbaniste.
Encore un point commun avec vous.
Oui, exactement. On était dans des univers similaires. Et ça a été un acte militant d'arrêter l'architecture. Un besoin de pouvoir exprimer mes valeurs sans me battre au quotidien. Et un besoin de créer un travail, en fait, un lieu où tous les matins j'y vais en sachant que je vais pouvoir apporter quelque chose pour faire évoluer ce monde dans lequel mes enfants grandissent. Et dans l'architecture, j'y arrivais plus. Je dis pas que c'est pas possible, moi j'y arrivais plus. Et du coup, Luna s'est un peu imposée comme une suite logique à tout ce que j'avais cherché avant. Une femme dans un monde de mecs, une femme dans le bâtiment. J'avais ce truc très ancré en moi. D'exprimer ma féminité que je ne pouvais plus exprimer et dans lequel je n'arrivais plus à me retrouver. Et du coup, avoir des livres qui mettent des femmes en avant, tout type de femmes, quelles qu'elles soient, c'était un réel besoin, en fait. Plus que quelque chose que j'avais envie de donner, c'est quelque chose dont j'avais besoin, moi, pour respirer. Et voilà, du coup, c'est assez naturellement qu'on a envisagé ce projet dans ce sens-là. L'envie de, si je peux résumer, l'envie de nous retrouver notre féminité et l'envie de créer un monde où nos enfants pourront s'exprimer de la manière dont ils en auront besoin.
Quel beau cheminement, inspirant. Est-ce qu'on se fait un dernier petit mot pour la route ou est-ce qu'on passe à la lecture de notre invité ?
Nous allons passer à la lecture de notre invité. Mais Marine, prenez donc un verre d'eau avant, peut-être. Hein. Servi gentiment, galamment, c'est un mot plus du tout à la mode, par Louis. Et c'est tellement bon de l'eau plate dans une coupe de champagne.
J'avoue que ces verres sont incroyables.
Et oui, chers amis auditeurs et auditrices, vous ne pouvez pas le voir, mais nous avons effectivement des coupes de champagne remplies d'eau non pétillante sur la table.
Et les bulles sont assurées par Violaine. On vous écoute, Marine. Qu'avez-vous choisi de nous lire ? Et pourquoi ?
Alors, je suis restée sur un livre de la rentrée littéraire qui s'appelle Julia, qui a été écrit par Sandra Newman, j'imagine que ça se prononce ainsi, et qui est en fait la réécriture de 1984. Donc, je vais peut-être résumer très rapidement 1984, qui est un peu un livre emblématique de la littérature, qui décrit un monde totalitaire dans lequel on essaye de dominer l'être humain par la surveillance, le contrôle et la réduction du vocabulaire. Le fait de ne plus donner de mots aux gens fait que les gens n'arrivent plus à penser, en fait. Et dans ce livre, 1984, qui est extraordinaire, il y a un personnage féminin, un seul, qui s'appelle Julia. Et donc, Sandra a fait le choix de réécrire ce texte à travers le regard de Julia. Donc, plus qu'une réécriture, c'est peut-être un complément. En tout cas, il apporte la voix des femmes, la question de la place de la femme dans un monde totalitaire, notamment la maternité, la reproduction, la sexualité, et des thématiques qui n'étaient absolument pas abordées dans le livre d'origine. Et il apporte un regard beaucoup plus contemporain. Il est également beaucoup plus facile à lire, on se prend beaucoup plus facilement dedans, la plume est plus fluide que celle de 1984, et je le conseille vivement.
Nous t'écoutons.
Alors, Artsem désignait l'insémination artificielle. C'était la méthode de procréation que préconisait le parti. Si les relations sexuelles hors mariage avaient toujours constitué un crime, le mariage même passait désormais par un frein à la loyauté. Il n'y avait pas meilleur camarade que celles et ceux qui consacraient chaque parcelle de leur énergie au parti. Toutefois, ces derniers ne naissaient pas dans les choux. Ils devaient donc être produits par insémination artificielle, puis séparés de leurs géniteurs et élevés par des travailleurs impartiaux dans les centres de développement infantile. Le parti avait placé l'Artsem au cœur de la nouvelle politique familiale et réservait dorénavant les allocations aux seuls volontaires. C'était aussi un moyen pour les jeunes femmes non mariées de dissimuler un crime de sexe quand elles tombaient enceintes. Whitehead comprendra si Vicky prend des congés pour Artsem, continua Harkins. Bien sûr, c'est une chose à laquelle vous devriez toutes penser. Mais en ce qui concerne Vicky, on se demande pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt. C'est parfait si on se sent fatigué. Elle pourrait bénéficier de rations supplémentaires et séjourner en MedSec, les doigts de pied en éventail, pendant que des infirmières lui apporteraient du thé. Oh, c'est drôlement chouette d'avoir un bébé. Et tout est si propre avec l'Artsem, et si scientifique avec ça. Je n'hésiterais pas une seconde si je n'avais pas déjà eu les miens à l'Opsomanière. Et elle resterait vierge, pense un peu. Julia ne laissa rien paraître de ses sentiments. Atkins savait que Vicky n'était pas plus vierge qu'elle n'était un avocat. Ce qu'Atkins ignorait en revanche, c'était que les filles avaient vanté pendant des semaines les bienfaits de l'Artsem à Vicky, le bon temps qu'on s'y payait. Il n'existait pas de meilleur remède contre les dérèglements de l'utérus. Naturellement, Vicky était leur bébé, la plus petite protégée du foyer, celle qui pleurait chaque fois qu'une souris finissait entre les griffes de leur chat. Julia y avait mis plus d'ardeur que quiconque. Elle avait dit le plus grand bien de ces deux tentatives d'Artsem avortée. Des sucreries et du badge auquel elles avaient droit, comme si c'était là ses meilleurs souvenirs. Elle avait même laissé entendre que la raison qui l'avait poussée à s'inscrire au programme n'était pas purement patriotique. Julia était la préférée de Vicky. La jeune fille la suivait partout, comme l'oison marche dans les pas de sa mère. Cela aurait dû fonctionner. Néanmoins, l'adolescente, parfois maussade, se fermait comme une huître dès qu'on la mettait face à ses difficultés. Dans la ZSA, on prenait ce genre de fille par la peau du cou et on lui mettait les idées en place. Ne fais pas l'imbécile, tu es enceinte et si tu ne te reprends pas, ton môme, tu l'auras dans un camp. À Londres, il fallait s'exprimer par énigme. Et autant dire qu'avec Vicky, cela revenait à parler à un mur.
Waouh!
Ça nous laisse
merci.
Sans voix.
Hein.
Merci Marine.
Avec plaisir.
Il nous fallait bien cette petite virgule pour respirer après une telle lecture et la lecture d'un tel monde. Vous nous avez apporté de la musique qui vous accompagne chaque matin pour être plus forte. Est-ce que vous voulez bien, comme à la radio, annoncer ou désannoncer le morceau et qu'on l'écoute, bien sûr?
Alors, cette musique, c'est de Sia, Unstoppable.
On l'écoute et merci, Louis.
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night. time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah.
On peut dire que cet extrait a énergisé notre amie Christine.
Alors merci Marine, moi j'adore Benjamin Britten, ça on l'a pas choisi par hasard pour en faire un générique, mais le Unstoppable, j'en aurais aussi fait un générique volontiers. Mais j'aime pas le Unstoppable Today, moi je le serai demain aussi j'espère.
Mais c'est sûr Christine, te voyant là on en est sûr.
Merci beaucoup Marine pour ce moment où vous vous êtes livrée mise à nu. Ah, tiens, tiens, c'est presque le sujet de l'émission,
merci
du moins.
Merci à vous.
Merci beaucoup, beaucoup, mais ce n'est pas terminé. Nous avons avec nous un petit moment de poésie sonore. D'ailleurs, c'est Violaine qui tenait à ce mot. C'est un instant de poésie sonore. Alors, nous allons vous lire, Prune et moi, un extrait de « Amour de soi ». C'est pas beau, ça ? « S'aimer soi d'abord ». Oui, oui, oui. «
Amour de soi » est le titre du poème. Et exactement. C'est extrait du recueil « Le soleil et les fleurs » de Rupicor. Et c'est chez Niels Éditions. D'abord, j'ai attaqué les mots.
Attaqué les mots.
Les « je ne peux pas »,« je ne vais pas », »,« je ne suis pas assez bien ».
Ça, c'est bien.
Je les ai alignés et abattus.
Abattus, alignés, abattus.
Puis j'ai attaqué mes pensées.
Invisibles, omniprésentes.
Invisibles.
Pas le temps de les rassembler une par une. Je devais les laver.
J'ai tissé un morceau d'étoffe avec mes cheveux, les tremper dans le bol de menthe et d'eau, les transporter dans ma bouche en grimpant le long de ma natte jusqu'à l'arrière de ma tête.
Agenouillée, j'ai commencé à nettoyer mon esprit. Il m'a fallu 21 jours.
21 jours.
Mes genoux étaient couverts de bleu. Mais je m'en fichais.
On ne m'a pas donné l'air dans mes poumons pour étouffer.
J'ai frotté la haine de moi-même jusqu'à l'os.
Pour l'enlever jusqu'à voir apparaître
l'amour.
L'amour. Ce serait le dernier souffle de cette Inkipit numéro 0, numéro 1. Numéro 1, numéro point 0, numéro 0.1. Enfin, en tous les cas, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment vous remercier. Marine, notre invitée.
Merci Marine.
Merci. Marine, merci pour vous, pour Luna, pour Hélène, pour tout ce qu'il nous reste à lire, à découvrir, à bouffer, à ronger, à avancer. Merci Violaine pour les sons, les odeurs, les couleurs, les lumières.
Merci à vous.
La voix. Prune, merci cher complice.
Merci à toi Christine.
Et merci à Louis. Merci à tous nos auditeurs. Je voudrais juste dédier ce numéro 100.1 de l'Infini à Jean Avzou, qui était notre complice infini il y a quelque temps à Radio Campus. À bientôt et vive le début, le commencement, jamais la fin. C'était Inkipit. Pensez à nous envoyer vos textes pour nous dire, pour nous écrire, pour partager ce que ces mots vous ont inspiré. Eh bien, il faut simplement faire clic-clic-clic sur Inkipit, I-N-C-I-P-I-T, @campusgrenoble, en un seul mot, campusgrenoble.org.